Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Libre Ensemble. Jacques Nizin à la technique, Pilar Arcas au micro. Avant de démarrer l'émission d'aujourd'hui qui a pour thème les avatars de Noël, je propose de faire un point d'actualité sur la laïcité en Belgique et dans le monde. Le Parlement européen avait commencé dès 2006 un travail d'investigation sur le transport via des pays membres et la détention illégale de terroristes présumés arrêtés un peu partout dans le monde avant d'être transférés vers l'Afghanistan, Cuba et les États-Unis. Le Conseil de l'Europe et Amnesty International et d'autres instances encore ont également incité les Européens à faire la clarté sur ce dossier noir. On aurait recensé un millier de vols clandestins au total et l'existence de 3 prisons secrètes en Roumanie, en Lituanie et en Pologne est avérée. Un mouvement citoyen qui porte le nom de « Tout autre chose » a vu le jour. Voici comment il se définit, je cite « Tout autre chose est un mouvement citoyen qui refuse le discours de nos gouvernants affirmant qu'il n'y a pas d'alternative à l'austérité. Avec Art Bovenhart en Flandre, nous voulons susciter le débat démocratique en Belgique francophone pour déconstruire le discours dominant et faire converger l'énorme potentiel d'imagination et d'action citoyenne en faveur de tout autre horizon. Si vous voulez rejoindre la liste des signataires, jusqu'à présent plutôt à consonance culturelle, ou en savoir plus sur ce mouvement citoyen, rendez-vous sur leur site toutautrechose.be. Publié annuellement par l'Union internationale humaniste et éthique, le rapport sur la liberté de penser fait le point sur les discriminations et persécutions à l'encontre des personnes areligieuses dans le monde. Il indique que dans 13 pays, les athées sont menacés de mort. Parmi ces pays, il y a entre autres le Bangladesh, l'Indonésie, le Pakistan, Gaza et les territoires palestiniens, le Yémen, le Qatar et bien d'autres, car la liste est longue malheureusement. Le motif de cette persécution est le déni de foi. C'est ainsi que dans 3 pays, l'Arabie Saoudite, le Pakistan et l'Iran, la peine de mort pour blasphème est explicitement inscrite dans le droit pénal. Ces discriminations ou persécutions affectent les personnes ouvertement areligieuses, dont les athées et les humanistes, mais aussi des croyants et des minorités. Bonjour Anne Morelli, Pierre Sommeville, merci d'être parmi nous. Pour rappel, le thème de l'émission d'aujourd'hui est les avatars de Noël. Anne Morelli, vous êtes docteur en histoire, spécialisée dans l'histoire des religions et des minorités. Vous avez été directrice du Centre interdisciplinaire des études des religions et de la laïcité de l'ULB, université où vous enseignez actuellement les contacts de culture.
Bonjour.
Pierre Sommeville, bonjour. Vous êtes professeur ordinaire émérite à la faculté de philosophie et lettres à l'ULG. Vous êtes docteur en philosophie et lettres, langues anciennes et philologie. Vous avez fait 2 années de 3e cycle à la Sorbonne et vous avez été professeur de morale laïque et de latin et puis d'esthétique et de philosophie à l'ULG. Merci beaucoup d'être parmi nous. Les avatars de Noël ou transformation de l'idée que l'on se fait de Noël, c'est le sujet de cette émission. Noël serait à l'origine une fête solsticiale réinterprétée par le christianisme. Les fêtes solsticiales, comme celles qui nous occupent ici en décembre, inaugurent la phase ascendante du soleil vers la lumière, alors que le solstice d'été amorce la phase descendante. Et ces deux fêtes renvoient au symbolisme romain de Janus, le dieu aux deux visages, et plus tardivement aux fêtes de la Saint-Jean d'hiver et d'été. En tout cas, Anne Morelli et Pierre Sommeville, cette période peut être prétexte à réfléchir sur l'origine de cette fête et à essayer de comprendre comment nos ancêtres célébraient cette période de l'année. Que fêtait-on et pourquoi ? Alors, Anne Morelli, à ce propos, que fête-t-on exactement le 25 décembre ?
Alors, si vous allez en rue demander aux gens ce qu'on fête le 25 décembre, ils vont certainement vous répondre que c'est la naissance de Jésus. Or, même les encyclopédies catholiques les plus traditionnelles, l'encyclopédie catholique pour tous, par exemple, vous dit « Personne ne sait exactement quand Jésus de Nazareth est né ». Alors, ça veut dire que cette fête, elle a été introduite tardivement dans le christianisme au IVe siècle et qu'avant ça, eh bien, c'était tout de même une fête. Il y a déjà au IIIe siècle avant notre ère des fêtes grecques qui sont des fêtes qui sont liées à des fêtes de la lumière. Et en fait, ça s'explique, comme vous venez de le dire, par le solstice. Il y a donc dans l'année astronomique, d'une part, les équinoxes où la nuit et le jour sont de même longueur, et d'autre part, il y a le solstice d'été où la journée est à son maximum, et le solstice d'hiver où c'est la nuit qui est à son maximum. Et en fait, imaginons-nous des gens qui n'ont pas des prévisions astrologiques, qui n'ont pas des possibilités d'imaginer ce qui va se passer dans l'avenir, et qui sont plongés dans cette nuit de plus en plus longue, de plus en plus longue, et à un certain moment, ouf, quelle chance, le soleil recommence à rallonger les jours. Et dans presque toutes les civilisations du nord de notre terre, il y a eu des fêtes pour commémorer, pour célébrer cette apparition de plus en plus longue du soleil. Et donc on retrouve des fêtes de solstice chez les Grecs, chez les Romains. L'empereur Aurélien, en 274 de notre ère, avait déjà fixé comme date officielle la fête du Sol Invictus, c'est-à-dire le soleil a gagné, il n'a pas été vaincu par la nuit. Et tout cela fait que lorsque il a fallu fixer un jour pour la naissance du Christ au IVe siècle, on a choisi ce jour du 25 décembre qui était déjà fêté chez ce que nous appelons les païens, c'est-à-dire dans les religions polythéistes qui ont précédé le christianisme.
Pierre Sommeville, vous partagez cette vision ?
Oui, en grande partie, bien sûr. Hein, je crois que depuis que l'humanité existe, elle est fascinée par ce mouvement pendulaire entre solstice et équinoxe, c'est vieux comme le monde. Il suffit de voir l'orientation de bâtiments comme Stonehenge ou Abu Simbel, qui sont orientés au premier rayon du solstice d'été, celui-là. Enfin bref, donc ça joue certainement depuis très longtemps. On peut rappeler aussi, bien sûr, que Mitra était né au solstice d'hiver. Sans qu'il y ait une influence réciproque entre le mithriacisme et le christianisme, à mon avis, parce qu'ils sont contemporains, mais leurs publics sont tellement incompatibles, socialement parlant, qu'à mon avis, il n'y a pas d'influence dans un sens ni dans l'autre. Ça relève de l'anthropologie, finalement. C'est bien ça qu'on dit, hein. Donc, par-delà la fête de Noël que nous connaissons et qui reste chrétienne malgré tout, il y a évidemment toute une antiquité présente. Ça, je suis tout à fait d'accord.
Et le culte d'Isis et Osiris
fêtait aussi
à ce moment-là une vierge qui enfante.
Oui, absolument.
Ce qui, naturellement, fait un certain nombre de parallèles avec les croyances.
Mais ça aussi, c'est anthropologique. Oui. C'est-à-dire qu'en histoire des religions, la logique binaire n'a plus cours. Il est donc normal qu'une vierge enfante, qu'un homme devienne Dieu ou l'inverse, ça se voit partout. Autrement dit, la spécificité chrétienne, là aussi, elle en prend un coup. Hein.
Oui, effectivement.
Mais ça nous permet peut-être de mieux la comprendre aussi. Le fait d'être historien des religions ouvre, je pense, les perspectives. Vous êtes d'accord, Anna ?
Oui, je pense que c'est d'une extrême utilité. Ouais. On voit d'ailleurs la même chose dans le bouddhisme. Il y a là aussi des vierges qui enfantent, des vierges qui sont fécondées par un éléphant.
Oui, la mère de Bouddha.
La
corne
Bouddha.
De l'éléphant.
Donc ce sont des mythes, évidemment, qui sont très communs dans l'ensemble de l'humanité.
Alors c'est au XIIe siècle qu'apparaît le mot Noël, de manière écrite, dans un calendrier sur les corps célestes et les calculs du calendrier. Donc Noël, comme on vient de le dire, est aujourd'hui absorbé par le calendrier chrétien. Mais je me suis demandé, est-ce qu'il a intégré d'autres fêtes issues de religions ou de traditions diverses ?
Alors à Rome, il y avait au mois de décembre des fêtes qui s'appelaient les Saturnalia. Et à ce moment-là, c'était aussi la fête de la lumière et des échanges de cadeaux. Et lorsque, quelques jours plus tard, il y avait les calendes de janvier, il y avait aussi échange de cadeaux, il y avait des étrennes pour le petit personnel au moment des Saturnalia. Tout ça, évidemment, a des parallèles chez nous, où c'est comme par hasard, au moment de ces fêtes de fin d'année, qu'il y a des gratifications, qu'il y a les cadeaux, la lumière, etc. Donc, le nouvel an romain, nos cadeaux traditionnels de fin fin d'année, tout ça est lié et ça n'a pas de rapport avec la naissance du christianisme.
Bien sûr, et le Saturnal, c'est plutôt Nouvel An, hein. Et même Carnaval aussi, dans la mesure où on inversait les rôles. Et je vous rappelle que Britannicus
est
mort.
Comment ça, on inversait ? Expliquez-nous un
petit
peu.
Les esclaves donnaient des ordres à leur patron, c'était le
tous les rôles sociaux étaient inversés.
Le fou qui était roi, voilà, ouais, donc une démarche carnavalesque en quelque sorte, dont Néron profite pour faire assassiner Britannicus pendant les Saturnales.
Alors cet échange de petits cadeaux, c'est très étonnant parce qu'effectivement, quand on relit quelques textes, il y a des petits objets qui sont offerts et qui sont transmis. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent du caractère totalement consumériste de cette fête. Et c'est étonnant de penser qu'autrefois, il y avait déjà, n'est-ce pas, des petits présents offerts et distribués.
Ah oui, effectivement, pendant ces fêtes qui entourent le solstice, à Rome, il y avait des échanges de cadeaux, de bougies, de petites poupées, nous dirions de gadgets divers qu'on s'échangeait. Et cette idée de l'échange de cadeaux, eh bien, elle est encore très présente aujourd'hui.
Rome est une société consumériste, c'est une société d'abondance, de surabondance pour les privilégiés, et donc, comme l'Amérique aujourd'hui, hein. Il y a pas mal de points communs. Rome, États-Unis.
Vous voulez nous en citer quelques-uns ?
La chute de l'Empire romain.
Eh bien, je crois qu'elle est annoncée pour l'autre empire aussi. Et malheureusement, nous sommes accrochés au convoi. Mais ce n'est peut-être pas le moment de faire le corbeau de mauvais augure. Hein. Non, mais l'Empire. L'Empire romain, l'Empire américain, la police du monde, la force d'organisation et tous les défauts aussi. Évidemment. Enfin bref, c'est un autre sujet.
Oui, mais je prends note pour une future émission.
À propos, une invention anglo-saxonne, c'est le Père Noël que je déteste.
Ah oui, vous aussi.
Ah, le Père Noël que je déteste. On n'a rien à faire chez nous, comme Halloween n'a rien à faire chez nous non plus. Une tradition irlandaise.
Alors,
ça revient par l'Amérique.
C'est très intéressant
par des
parce
canaux
qu'en
commerciaux.
Fait, c'est des allers-retours.
Oui.
Saint-Nicolas a été exporté aux États-Unis par les migrants polonais,
oui.
Allemands, hollandais.
Ça n'a pas marché, Saint-Nicolas.
Et c'est devenu Santa Claus aux États-Unis. Et puis ce Santa Claus a perdu ses attributs les plus liés à la religion catholique pour devenir quelque chose de plus neutre qui pouvait être accepté par les protestants. Et alors, curieusement,
de là,
avec
lui mettre des cornes de caribou,
l'aide de quelques marques de soda dont nous ne ferons pas la publicité,
il est
revenu sur notre continent.
Oui, voilà.
Mais c'est des allers-retours culturels.
Mais moi, j'aime bien Saint-Nicolas, figurez-vous.
Ah, vous aussi.
Et je vous dis qu'il ne faut pas le déshabiller et le transformer avec une casquette Mao et une vareuse kaki. Ce serait dommage.
Donc, ça, c'était Che Guevara.
Mais bon, oui.
Alors, lorsqu'on évoque le retour de la lumière. On parle du retour du soleil qui va fertiliser la terre et rendre possible les récoltes. Donc on est dans quelque chose de très concret hein, lorsqu'on parle aussi des fêtes solsticiales. Mais est-ce qu'il était déjà question dans le passé du triomphe de la lumière, c'est-à-dire du triomphe de la lumière sur l'ombre, le triomphe du bien sur le mal en quelque sorte ?
Mais je reviens à Mitra là, que j'aime, hein, contrairement au Père Noël. Dans le culte de Mitra, bien sûr, il y a la naissance au solstice, mais il y a surtout la tauroctonie, c'est-à-dire le sacrifice imaginaire du taureau, qui est le rituel principal des fêtes mitriaques, qui se plaçait à l'équinoxe de printemps, au moment du renouveau, c'est l'époque de Pâques aussi.
Mais au moment du simultané. Solstice d'hiver, Mitra, qui est porteur de lumière, on va l'honorer en faisant des feux pour stimuler le soleil à monter plus haut.
Oui,
donc, c'est très semblable comme mythologie.
Ça, c'est très proche de la bûche de Noël dans le feu et des branches de sapin que l'on fait brûler. On fait brûler tout.
On peut imaginer ça, oui. C'est le tison qui reprend, c'est la flamme qui repart.
Hein. Et en quoi consistait cette fête dont vous nous parlez ? Donc Mitra, le taureau...
Mitra est l'intercesseur entre les hommes et la divinité solaire. C'est le Sol Invictus aussi, mais qui n'est pas le soleil qu'on voit dans le ciel, qui est le principe qui fait que le chaos primordial devient un ordre. Donc c'est une présence énothéiste en quelque sorte. Et ce sacrifice, il semble bien qu'il n'a jamais eu lieu de manière... pratique, réaliste, c'est un fantasme. C'est le fantasme qui irrigue la nature avec le sang du taureau et qui est supposé redonner vie, une espèce de création continuée, si vous voulez. Et ça, c'est pour Pâques, donc on réserve le sujet, si vous voulez.
Oui, avec plaisir, je note aussi deuxième sujet d'émission, très bien. Mais qu'en est-il alors du triomphe du bien sur le mal ?
Si j'en reviens à Mitra, c'est l'intercesseur, c'est grâce à lui que le bien existe et est possible. et reste possible. C'est vrai qu'il est lié, il est lié au solstice d'hiver. Il naît dans une grotte, ou il naît d'une pierre ou d'un arbre, mais dans une grotte. Et les lieux de culte de Mithriaque étaient soit des vraies cavernes, en tout cas des hypogées, avec une simulation de grotte au plafond.
J'espère qu'on aura le temps. Oui, vous voulez ajouter quelque chose, Anne-Morelli?
Oui, je pense que Noël a récupéré en fait les symboles de diverses religions. Il a récupéré les symboles isiaques de Isis, mais il a récupéré aussi ceux de la naissance du soleil et puis ceux de la fête mithraïque dont on vient de parler, en célébrant une nouvelle lumière qui serait la naissance de Jésus qui vient illuminer le monde. Mais c'est le résumé, je dirais, de toute une série de symboles qui sont présents dans le monde romain à cette époque.
Ok. Plus concrètement, les laïcs furent nombreux à s'intéresser aux fêtes civiles. Au début du siècle passé, il y avait une excellente revue, paraît-il, qui en avait fait un objet d'étude et de militantisme. Elle s'intitulait « Les annales des fêtes et cérémonies civiles ». Et on y trouve des études approfondies sur l'histoire et la sociologie et aussi l'esthétique de toutes les fêtes. Que diriez-vous de l'esthétique de la fête de Noël aujourd'hui dans notre pays ?
D'une manière générale, c'est un peu difficile, mais d'une manière privée et familiale, il reste l'arbre, évidemment, l'arbre de Noël. Centre du monde, l'axe, le pivot, celui grâce auquel aussi les choses continuent de tourner rond. Il ne faut pas oublier que le solstice, c'est un moment de peur aussi, parce que si la Terre continuait à s'éloigner du Soleil, autrement dit, si le Soleil ne s'arrêtait pas au bon endroit, quelques degrés d'erreur provoqueraient la catastrophe apocalyptique définitive. Donc ça, c'est certainement une chose à laquelle il faut penser aussi. Maintenant, l'esthétique de Noël, il y a donc l'arbre, il y a le sapin central. Puis quand même, il y a la crèche et les rois mages. Je sais pas, moi, j'ai des souvenirs d'enfance qui sont colorés et que j'aime bien. Alors, je vous raconte une anecdote personnelle. Je peux très vite.
Non, prenez le temps.
J'ai mis mes enfants à l'école laïque, bien entendu. En me disant, ils ne vont pas me ramener le petit Jésus, au moins. Parce qu'il y en a marre du petit Jésus. Bon. Ils reviennent de l'école, la première semaine où j'étais allé à l'école, ils ne me ramènent pas le petit Jésus, donc je suis très content. Mais vous savez ce qu'ils me ramènent ? Goldorak et Capitaine Flamme. Et alors, une mythologie ne vaut pas nécessairement une autre. Voilà, on referme la parenthèse. Ceci n'est pas un plaidoyer pro-Noël Cato, certainement pas. Mais enfin, bon, il me semble qu'il y a des images qui restent fortes et à tout prendre si on les déconnecte, si on les déconnecte du dogme unique.
Alors,
et totalitaire, je crois qu'on peut les garder.
Nous vivons dans une société plurielle, et je crois que l'arbre de Noël, ça peut devenir le sapin qui est bon pour tout le monde.
Oui,
tout
sûr.
Le monde souffre de l'absence de lumière à cette saison. Tout le monde est content que le printemps soit en vue. Donc ça, c'est un symbole qui est vraiment, je dirais, laïque par excellence. Maintenant que dans des communes, et notamment des communes bruxelloises à majorité musulmane, on veuille mettre à tout prix une crèche ici ou là, ça me semble de la croisade. Et donc, il faut faire une grande différence entre l'un et l'autre. À titre personnel, étant d'origine italienne, j'ai aussi une crèche et j'y tiens beaucoup. Mais c'est à titre personnel, c'est chez moi, c'est un souvenir d'enfance. Mais je trouve que dans l'espace public, c'est le sapin qui doit triompher. Et moi, je suis très contente que, par exemple, à Bruxelles, on ne parle plus du marché de Noël, mais des plaisirs d'hiver. C'est vrai qu'on peut patiner tous ensemble, qu'on soit de diverses opinions philosophiques ou religieuses. On peut aller se promener dans la ville illuminée, on peut aller se photographier devant le sapin. Tout ça, ce sont des plaisirs qui sont à savourer en commun, tous ensemble, et qui ajoutent du vivre ensemble à ce moment du solstice d'hiver.
Comme il ne faut plus de crucifix dans les prétoires. C'est la même chose.
Oui, je rebondis sur ce que vous dites, Anne Morelli. Il faut savoir qu'il y a une fête, enfin vous le savez certainement, une fête indienne qui est une grande célébration, qui est la fête Diwali. Et d'ailleurs ici, puisque vous parliez justement d'ouvrir un peu et que peut-être que les différentes communautés se parlent, il y a cette fête qui est très accueillie dans la ville d'Anvers. C'est une fête qui réunit toutes les communautés indiennes, les Sikhs et les Hindous, les Jaïns. Il y a des discours politiques, des spectacles, les centres commerciaux mais aussi les temples sont bondés. On ne peut pas en dire autant de la fête de Noël dans notre pays. Comment pensez-vous que cette fête de Noël va évoluer dans le temps? Qu'est-ce que c'est Noël dans 50 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, selon vous?
L'aspect chrétien dans le temps, quand la plupart des gens y adhéraient, permettait une participation de masse qui n'a plus lieu, qui n'a pratiquement plus lieu aujourd'hui. Donc là, c'est vrai que les choses ont changé. Je crois que Noël, il y a 50 ans, il y a un siècle, impliquait davantage les gens parce que l'amalgame avec la religion fonctionnait. Aujourd'hui, il fonctionne moins. Je crois qu'on peut s'en réjouir jusqu'à un certain point. Seulement, le côté social s'est un peu délité pour faire place à du consumérisme et du Père Noël avec sa cloche, etc. Quoi. Voilà.
Moi, je ne suis qu'historienne et pas futurologue, donc je ne sais pas ce qui va se passer dans l'avenir. Mais je dirais que pour tout le monde, les jours vont enfin rallonger. Le soleil a triomphé. L'hiver est presque derrière nous. On va s'échanger des cadeaux comme les Romains lors des Saturnalia et au calendrier de janvier. Et moi, je trouve que ce sont toutes des raisons de nous réjouir.
Ah, bah très bien, ça ressemble à un beau message de Noël. Vous nous en ferez un aussi, Pierre Somville, si vous voulez bien.
Oui, parce qu'il y a encore un aspect, c'est le problème de l'enfance. Hein. L'éternelle enfance, qui n'est pas un monopole catholique ou chrétien non plus. Donc ça me paraît important aussi.
D'accord.
C'est une forme de lumière. Hein. La vie, la lumière sont des choses qui vont de pair, qui restent très mystérieuses, l'une et l'autre d'ailleurs. Il faut toujours relire le prologue de l'évangile de Jean, parce que le 27 décembre aussi, quand même, c'est bien le prologue de Jean, je trouve. Voilà, qui pose au moins la question de savoir si par hasard l'un ne précéderait pas le multiple.
Voilà,
c'est une question posée.
Elle est posée, tout à fait. Il y a certaines célébrations qui sont particulièrement féeriques. On a parlé de Diwali, je veux parler maintenant de Loy Krathong. Vous savez, cette très belle fête en Thaïlande où on fait divaguer des petits bateaux de papier sur lesquels on a mis une bougie, et puis il y en a des milliers, et puis les gens se mettent sur un pont et voient tous ces bateaux de papier glisser et aller prendre la direction de la mer. Est-ce que ce genre de rituel féerique peut faire sens pour un ou une laïque?
Eh bien, je pense que ça doit être très agréable de voir cela, mais ça ne correspond pas naturellement à notre vécu. Mais je pense que les fêtes actuelles des plaisirs d'hiver ou autres jouent justement sur cet émerveillement. La grande place illuminée, le sapin, d'où vient-il, qui nous l'a offert, les petites boutiques qui se succèdent.
Sauf qu'il était en fer blanc l'an passé.
Heureusement, cette année, il est bel et bien...
C'est un vrai sapin, c'est pas figuratif.
Un vrai épicéa. Et je pense que ça, ce sont des choses qui sont dans l'ordre de l'émerveillement. Lorsque la nuit tombe si vite sur notre hémisphère, eh bien, je crois que le fait de découvrir la lumière au cours de longues soirées participe à l'émerveillement de ces fêtes du solstice.
Puis l'arbre n'a rien de chrétien non plus. Hein. L'arbre en tant que tel, c'est druidique, c'est tout ce qu'on veut. Et je comprends mal qu'il soit contesté comme un symbole chrétien. C'est une mésinterprétation, c'est une...
Alors, de quoi est-il le symbole? Parce que justement, cet arbre, ce sapin, ce très beau sapin planté au milieu de la Grande Place, de quoi peut-on dire qu'il est le symbole
aujourd'hui? Pour moi, c'est le centre du monde, le centre imaginaire du monde à un moment donné, au moment où l'horloger, s'il y en a un, permet qu'il n'y ait pas de degré de dérive. Et ça s'en sort que la lumière rebondisse.
C'est pas par hasard que c'est un sapin et pas un chêne ou... Parce que le chêne perd ses feuilles comme tous les autres arbres.
Il est vivace,
Le sapin est vivace et donc il est le symbole de la nature qui va reprendre ses droits malgré cette période où on peut imaginer que tout est bloqué, que la neige a recouvert le sol. Eh bien non, ça va recommencer. Le cycle de la nature... reprendra ses droits au printemps.
Le pin et le sapin sont des arbres dionysiaques aussi. Le pin notamment, et la résine de pin.
Ah oui, le pin, les ifs, ah oui c'est ça, le pin, P-I-N, d'accord.
Ah oui, P-I-N, oui.
On parlait tout à l'heure de ce rituel du culte d'Isis et d'Osiris qui réunissait au moment du solstice d'hiver la lumière et la Vierge qui enfante. Et donc, parallèlement, si ce sapin n'est pas un symbole religieux, la crèche est la représentation de la nativité. Et que vous suggère alors ce parallèle ?
Eh bien, je pense que la crèche doit être dans les églises, dans les familles, mais elle ne doit pas être dans l'espace public. Tandis que le sapin, ben, c'est bon pour tout le monde. Hein. Il n'y a pas de lien immédiat avec l'une ou l'autre religion. Et je pense que c'est là que nous devons faire la différence. L'espace public n'est pas fait pour que chacun y expose ses convictions religieuses.
Non. Hein.
Et donc, les crèches sont tout à fait conseillé dans les églises, mais pas sur la grande place et pas dans l'espace public.
On ne va pas mettre dans l'espace public non plus un lycnos dionysiaque avec un phallus postiche dedans. Hein. Mm-hmm. Bon, voilà. Si on est dionysiaque, on peut faire ça chez soi éventuellement.
Vous avez esquivé tout à l'heure la question sur la féerie, hein, la féerie laïque. Vous avez quelque chose à rêver avec nous, à partager avec nous là-dessus.
C'est difficile, ça. C'est privé, quoi. Ce sont des souvenirs d'enfance qui vont déraper nécessairement.
Absolument. D'accord. Très bien. Alors non.
Du mauvais côté.
Du mauvais côté. Ouais. Alors non. Merci. Par contre, puisque Anne Morelli nous a fait la gentillesse de nous adresser quelques phrases qui ressemblaient à un message de Noël, est-ce que vous, à votre tour,
un peu de tendresse dans ce monde de brut.
C'est court, mais ça a le mérite d'être efficace. Hein. Très bien. Eh bien, j'espère que vos fêtes ont été et seront tendres dans le futur. Je vous remercie, Anne Morelli et Pierre Sommeville, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Et je vous souhaite à vous deux et à vous tous qui nous écoutez.
Joyeux Noël.
De très joyeuses fêtes à tous. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.